J'ai une question des plus sérieuses pour vous. Est-ce que Dieu jugera les personnes qui entraînent les enfants dans le péché plus sévèrement que les autres? La parole de Dieu va nous donner une réponse bien claire aujourd'hui à l'émission À travers la Bible.
Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647.
Bonjour, ici Caro. Je suis en train de penser au fait que 5 fois par semaine à l'émission À travers la Bible, on pose des questions à la parole de Dieu. Et le Seigneur ne nous déçoit jamais. Il nous enseigne bien clairement sa parole. Merci, Seigneur. Voici les questions d'aujourd'hui. Est-ce que Dieu juge les gens selon les apparences? Pouvons-nous juger les gens selon les apparences? Est-ce que les gens perdent leur identité après la mort? Est-ce que la mort est une séparation ou une extinction? Est-ce vrai que l'esprit des croyants va auprès de Christ après leur mort? Est-ce qu'une personne qui entraîne un enfant dans le péché sera jugée plus sévèrement que les autres? Pouvons-nous gagner notre ciel par nos bonnes œuvres? Est-ce que l'expression de notre reconnaissance devrait faire partie de notre adoration? Avant d'écouter les réponses que les Saintes Écritures vont nous donner par la bouche du pasteur Régent Joly, demandons à Dieu qu'il nous dispose à tout ce bon enseignement. Prions. Oui, Seigneur, on sait que tu vas nous parler aujourd'hui par la bouche de ton serviteur. Et on désire que tu touches nos cœurs, que tu nous disposes à bien comprendre ton enseignement. Merci pour tout ce que tu vas nous donner aujourd'hui. Amen. À toi, Régent.
Merci, Caro. Aujourd'hui, nous complétons l'étude du 16e chapitre de l'Évangile selon Luc. Celui-ci se termine avec la parabole de l'homme riche et de Lazare. Je ne pense pas que le Seigneur ait inventé une seule parabole. Elles sont probablement toutes inspirées de faits vécus. Nous pouvons dire cela de la parabole d'aujourd'hui, parce que Jésus a nommé Lazare par son nom. Chers amis, débutons notre lecture. Luc chapitre 16, versets 19 à 21. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre, nommé Lazare, était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche, et même les chiens venait encore lécher ses ulcères. Nous avons ici deux hommes aux extrêmes opposés de l'échelle sociale. L'un, très riche, fait partie de l'élite sociale. L'autre représente l'extrême pauvreté. Ces deux hommes n'avaient rien en commun. Le pauvre se rassasiait des miettes tombées de la table de l'homme riche. Il ne fut jamais invité à s'avancer à la table de l'homme riche. Il devait se tenir à l'écart, et les chiens venaient lécher ses plaies. Le Seigneur nous trace le tableau de la dégradation et du désespoir de cet homme. Si vous aviez vécu dans cette ville, vous auriez pensé que le pauvre Lazare, habillé de haillons, n'avait ni discernement spirituel, ni richesse spirituelle, et vous auriez pensé qu'il n'y avait rien à faire avec lui. Par contre, plusieurs édifices de la ville devaient porter le nom de l'homme riche. Une église, un hôpital, une clinique, des édifices publics. Il devait avoir une très bonne réputation dans cette ville. Cependant, ce que la population de la ville voyait, c'était les apparences extérieures de l'homme riche et du mendiant dont les chiens léchaient les plaies. Nous avons un portrait de l'opulence et un portrait de la misère. Les deux pôles opposés de l'échelle sociale. Verset 22. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Le Seigneur nous raconte, le plus naturellement du monde, comment cela se passe dans l'au-delà. Lorsque Lazare, le pauvre, est mort, il n'y a pas eu de funérailles. Son corps fut probablement porté à la vallée de la Géhenne où l'on jetait et brûlait des déchets. À cette époque, c'est ce que l'on faisait des corps des pauvres. Cependant, aussitôt que l'âme du mendiant s'est trouvée dans l'au-delà, les anges l'ont portée jusqu'au sein d'Abraham. Ensuite, l'homme riche est décédé à son tour. Il a probablement eu droit à de belles funérailles, et le prédicateur a dû expliquer comment Dieu l'accueillait au ciel pour sa grande générosité et ses bonnes œuvres. Le problème, c'est que le prédicateur s'est trompé sur la destination de l'homme riche. Verset 23. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et, tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Nous remarquons deux items ici. Premièrement, les perdus vont dans un endroit où ils sont en proie au tourment. Deuxièmement, les gens se reconnaissent après la mort, donc ne perdent pas leur identité. L'expression « séjour des morts » traduit le mot grec « hadès », qui signifie « monde invisible ». En fait, l'enfer, comme nous le concevons habituellement, n'est pas encore utilisé. Nous en entendons parler que dans l'Apocalypse, chapitre 20, verset 10. Le texte nous dit que ses premiers résidents seront l'Antéchrist et le faux prophète. Lorsque Lazare et l'homme riche sont décédés, ils ont été au séjour des morts, là où vont les âmes des personnes décédées. Ces âmes sont en attente. La mort est une séparation, pas une extinction. Lorsqu'Adam a goûté le fruit défendu, la Bible nous dit qu'il est mort. Il est vrai que physiquement il est décédé environ 900 ans plus tard, mais dès le jour où il a mangé du fruit, il fut séparé de Dieu. Jésus a présenté ce concept de la mort. Il a dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Jean, chapitre 11, versets 25 et 26. Le péché sépare l'homme de Dieu. Les gens sont morts, quoique vivants. L'apôtre Paul a dit, dans sa lettre adressée aux Éphésiens, « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. » Éphésiens, chapitre 2, verset 1er. Certains endroits dans les villes sont agités et bruyants pendant la nuit. Si vous désirez voir des zombies et des personnes mortes, visitez un club de nuit. C'est là que vous en trouvez beaucoup. On joue du tambour, la musique résonne à pleine capacité. On danse au rythme de celle-ci, on s'enivre et on se gèle avec de la drogue parce que l'on est mort et que l'on désire vivre. On pense vivre. Il y a une deuxième mort, qui est la mort spirituelle, et cette mort est une séparation éternelle d'avec Dieu. À la mort physique, le corps devient inanimé et froid, car l'âme l'a quitté. Il est enseveli et il redevient poussière. Car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière, dit l'Éternel Dieu à l'homme, rapporté dans le livre de la Genèse, chapitre 3, verset 19. La mort signifie la séparation d'avec Dieu. Nous comprendrons mieux cette parabole si nous nous rendons compte que le séjour des morts est divisé en deux secteurs. Le paradis, qui est le sein d'Abraham dans cette parabole, est le lieu de tourment. Le paradis fut vidé lorsque Christ amena avec lui les croyants de l'Ancien Testament lors de son ascension. Éphésiens chapitre 4, versets 8 à 10. Le lieu de tourment livrera les perdus pour le jugement du grand trône blanc, que nous lisons dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 20, versets 11 à 15. « Tous ceux qui paraîtront devant ce tribunal, devant ce trône blanc, comme il nous est mentionné dans ce livre, sont perdus, et ils iront dans l'étang de feu, ce qui est la seconde mort. » Donc, à sa mort, le riche est allé dans le lieu de tourment avec les perdus. Lazare est allé au paradis, soit le sein d'Abraham. Notez que le Seigneur n'affirme pas que l'homme riche se retrouve dans le lieu de tourment parce qu'il était riche, ni que Lazare se retrouve au paradis parce qu'il était pauvre. Si se retrouver dans l'au-delà a modifié leur statut, c'est à cause de l'état de leur cœur et non de leur possession terrestre. C'est ce que le Seigneur enseigne dans cette section de la Bible. Nous ne pouvons pas juger un livre par sa couverture. L'habit ne fait pas le moine. Nous ne pouvons pas juger selon les apparences. Il y a encore des éléments dans cette parabole que nous ne connaîtrions pas si le Seigneur ne les avait pas révélés. Verset 24. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Les rôles sont inversés. L'homme riche est devenu mendiant, et le mendiant possède les richesses spirituelles. Poursuivons. Versets 25 et 26. Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé, et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a, entre nous et vous, un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. » Depuis la résurrection, l'esprit des croyants va auprès de Christ à leur mort. Nous sommes pleins de confiance, et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur, dit l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 8. Les perdus se retrouvent toujours dans le lieu de tourment. Nous trouvons l'explication dans Éphésiens, chapitre 4, verset 8 à 10. C'est pourquoi il y dit, « Étant monté en haut, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie « il est monté » sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. » Autrement dit, lorsque le Seigneur Jésus est descendu dans le séjour des morts, il est allé dans la section du paradis et il a ramené les croyants avec lui en présence de Dieu. Seules les âmes des perdus sont encore dans le lieu de tourment. Un jour, ils se retrouveront tous dans l'étang de feu, tel que mentionné dans le livre de l'Apocalypse. Notre corps n'est qu'une tente pour notre âme. À la mort, nous quittons cette demeure. Et quoi qu'il en soit fait, la question importante est le sort de notre âme. Où se retrouvera notre esprit? Dans l'au-delà. Le ciel existe, mes amis, et à votre mort, vous vous y retrouverez peut-être avec Christ. Ou vous vous retrouverez au lieu de tourment pour éventuellement aller dans l'étang de feu pour l'éternité. Ce ne fut jamais l'intention de Dieu qu'un humain s'y retrouve. L'endroit fut créé pour Satan et les anges déchus. C'est nous qui choisissons notre destinée éternelle. Je le répète, c'est vous qui choisissez votre destinée éternelle. Un abîme sépare les deux endroits, donc c'est maintenant que nous devons faire le bon choix. Il n'y aura pas de deuxième chance. Après la mort, il sera trop tard. Verset 27. Le riche dit, « Je te prie donc, père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. » Le riche pense à ses frères. il désire qu'il se repente. Mes amis, si les morts pouvaient revenir, ils prêcheraient à leur tour l'Évangile. Versets 28 à 31. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » Et il dit, « Non, père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. » Oui, chers amis, bien des personnes croient que les gens se repentiraient s'il revenait quelqu'un des morts pour leur expliquer ce qu'est l'au-delà. En fait, Jésus-Christ est revenu car il est ressuscité. La multitude n'a pas cru en lui, pas plus qu'elle a cru Moïse et les prophètes. Mes amis, c'est aujourd'hui que vous devez faire votre choix. Il n'y aura plus aucune possibilité de changer d'idée après votre mort. Maintenant, nous passons au chapitre 17. Lisons les deux premiers versets de Luc, chapitre 17. Jésus dit à ses disciples, « Il est impossible qu'il n'arrive pas des scandales, mais malheur à celui par qui ils arrivent. Il vaudrait mieux pour lui qu'on mette à son cou une pierre de moulin et qu'on le jette dans la mer que s'il scandalisait un de ses petits. » Le Seigneur prononce des paroles très sévères. « Je crois que je préfère être quiconque sauf une personne qui entraîne un enfant dans le péché. Ceux qui font cela seront jugés plus sévèrement. Si vous êtes une occasion de chute pour un enfant, c'est-à-dire un mauvais témoignage, vous êtes dans le pétrin. Il y a une chose pire que d'aller en enfer. C'est de se retrouver en enfer avec son fils qui vous dira « Papa, « je suis ici parce que j'ai suivi tes traces. » Jésus prononce des paroles sévères. Certaines personnes peignent Jésus comme étant doux. Mais Jésus était aussi un être juste. Il l'était avec les enfants et aussi avec les adultes. Oui, cher ami, le péché est toujours puni, mais peut-être pardonné s'il est confessé et abandonné. Passons maintenant aux versets 7 à 10. Qui de vous, ayant un serviteur qui laboure ou paie les troupeaux, lui dira, quand il revient des champs, « Approche vite et mets-toi à table. » Ne lui dira-t-il pas au contraire, « Prépare-moi à souper, ceins-toi et serre-moi jusqu'à ce que j'ai mangé et bu. Après cela, toi, tu mangeras et boiras. » Doit-il de la reconnaissance à ce serviteur parce qu'il a fait ce qui lui était ordonné? Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, « Nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire. » Appliquons ce passage à notre situation. Certaines personnes pensent aller au ciel parce qu'elles observent les 10 commandements. Elles pensent que Dieu va les accueillir à cause de leur bonne vie. Elle pense qu'elle mérite d'aller au ciel. Mais si nous observions la loi de Dieu, ce que personne ne peut faire, nous n'aurions fait que notre devoir de créature de Dieu. Le salut est un don gratuit, et nous ne pouvons pas le gagner par nos œuvres. Poursuivons. Lisons les versets 11 à 19. Jésus, se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent, « Jésus, Maître, aie pitié de nous !» Dès qu'il les eut vus, il leur dit, « Allez vous montrer au sacrificateur !» Et, pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face, aux pieds de Jésus, et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit, Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? » Puis il lui dit, « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Jésus a guéri 10 lépreux, et un seul, un Samaritain, est revenu remercier Jésus. Jésus a fait une deuxième chose pour lui. Il lui a pardonné ses péchés. Les autres lépreux ont été guéris, mais ils n'ont pas été sauvés. Que leur manquait-il? Cette approche vers Jésus. Les chrétiens devraient avoir des cœurs reconnaissants à l'égard de Dieu. Pourquoi allez-vous à votre réunion dimanche après dimanche? Y allez-vous pour adorer Dieu et lui exprimer votre reconnaissance? L'expression de votre gratitude devrait faire partie de votre adoration. L'expression de notre gratitude est la seule chose que nous pouvons donner à Dieu. Même nos requêtes doivent être présentées avec des actions de grâce. Versets 20 et 21. Les pharisiens demandèrent à Jésus, « Quand viendrait le royaume de Dieu? » Il leur répondit, « Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point « Il est ici » ou « Il est là », car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. » En répondant à la question des pharisiens, Jésus ne leur dit pas que le royaume de Dieu est à l'intérieur de leur cœur. En fait, ces pharisiens sont hostiles aux vérités spirituelles. C'est dans la personne de Jésus-Christ que le royaume de Dieu se trouve au milieu d'eux. C'est en lui que se trouve le royaume de Dieu. Maintenant, nous avons déjà traité du sujet du reste du chapitre, donc je n'irai pas dans les détails, et nous aurons une autre occasion d'y revenir. La suite du chapitre parle du deuxième retour de Jésus-Christ. Lisons ensemble les versets 29 et 30. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. À son deuxième retour, le Seigneur Jésus établira son royaume. Personne ne recevra d'avertissement lorsque le Seigneur Jésus reviendra. Nous devrions être toujours prêts au retour de Jésus-Christ. En fait, il pourrait revenir aujourd'hui. Les croyants pourraient être enlevés à n'importe quel moment. Versets 31 à 37. En ce jour-là, que celui qui sera sur le toit et qui aura ses effets dans la maison ne descende pas pour les prendre, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. Souvenez-vous de la femme de Lot. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra la retrouvera. Je vous le dis, en cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux femmes qui moudront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Les disciples lui dirent, « Où sera-ce, Seigneur ? » Il répondit, « Où sera le corps, là s'assembleront les vautours. » Cher ami, la question n'est pas « Où seras-tu ?» quand Christ reviendra. Oui, tu peux être comme dans cette parabole, au lit, au champ, au travail, à la maison, peu importe. Mais la question est plutôt celle-ci. Où seras-tu quand Christ reviendra concernant ton éternité? Deux lieux. La Bible nous rapporte qu'il y a deux endroits. Le paradis ou le séjour des morts. Chers amis, préparons-nous pour la prochaine émission, Luc chapitre 18.
Merci, Régent. Ça m'a frappé particulièrement quand tu as mentionné que si les morts pouvaient revenir, ils prêcheraient l'Évangile. Quand j'annonce la bonne nouvelle du salut aux gens et que je leur dis combien ça va être extraordinaire là-haut dans le royaume de Dieu, dans sa présence, certains me disent « Oh, il n'y a personne parmi ceux qui sont morts qui sont venus nous le dire. » Eh bien, mes amis, je suis bien contente que Régent ait mentionné l'exemple de Jésus, qui, lui, est mort pour nos péchés, qu'il est monté au ciel et que le troisième jour, il est ressuscité. Puis, il est apparu à plusieurs. Si les gens ne croient pas Jésus, qui vont-ils croire? Jésus a rencontré plusieurs personnes après sa résurrection. Entre autres, il a rencontré ses apôtres, qui sont devenus ses témoins et qui ont écrit tout ce qui s'est passé concernant sa vie, sa mort, sa résurrection, son ascension. Et ces écrits se sont rendus jusqu'à nous aujourd'hui. On peut les trouver dans la Bible. Quel privilège on a! Avant son ascension, Jésus a dit à ses disciples, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Imaginez, Jésus était avec ses disciples il y a 2000 ans, et il est avec moi en ce moment. Il était avec Régent il y a quelques minutes alors qu'il nous enseignait la parole de Dieu. Mon ami, est-ce que Jésus est avec toi? Y a-t-il un moment dans ta vie où il est devenu ton sauveur, ton maître? Sinon, tu peux savoir que le Seigneur parle encore aujourd'hui. Et il invite les gens à se repentir et à croire à la bonne nouvelle. Puis la bonne nouvelle, c'est que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Mon ami, de ton vivant, tu as le choix entre périr ou avoir la vie éternelle. C'est à toi de choisir. Pense-y. Combien de temps est-ce qu'il te reste à vivre sur cette terre? Dieu nous dit dans sa parole, « Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. » Entends-tu la voix de Dieu en ce moment? C'est sûr qu'il y a une voix humaine là, qui parle à ton cœur, c'est la mienne, mais Dieu parle à travers ses enfants. Quand on devient un enfant de Dieu, on reçoit l'Esprit de Dieu et on peut parler aux gens. Dieu peut parler même aux gens et leur dire, « Je t'aime d'un amour éternel et je veux te sauver. Je veux que tu passes l'éternité avec moi. » Régent, je pense que les gens comprennent pas exactement c'est quoi un déjeuner de l'espoir. Pourrais-tu l'expliquer?
Avec joie, Caro. Les gens sont invités à venir participer à un déjeuner de l'espoir qui se déroule dans un restaurant. Un endroit où les gens sont habitués à venir. Qui n'a pas pris un repas dans un restaurant? C'est un lieu public. Alors, les gens viennent, ils y assistent et ils peuvent manger gratuitement.
Wow!
Gratuitement, en plus d'entendre un merveilleux témoignage. C'est ça qui fait que le déjeuner est merveilleux, c'est qu'il y a un témoignage d'une personne. Ça pourrait être toi, Caro, ou moi, ou une toute autre personne qui a vécu une expérience personnelle avec Dieu. Comment est-ce que Dieu a transformé, changé, je pourrais même dire bouleversé sa vie?
Eh oui, Dieu a vraiment bouleversé la mienne et j'aime ça raconter ça. J'aime ça aussi pouvoir chanter mes anciens succès. C'est le fun de voir les gens qui rient d'entendre toutes ces anciennes chansons-là. Et finalement, je leur dis ce que Dieu a fait pour moi. Puis c'est merveilleux, c'est bon dans mon cœur de l'annoncer aux gens combien Dieu les aime. Et ça se fait à la grandeur du Québec.
Comment peut-on savoir s'il y en a un près de chez nous?
Eh bien, vous pouvez nous rejoindre par téléphone.
1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647 ou via courriel
à www.radioespoir.ca ou à notre adresse postale.
Radio Espoir, casier postal 34-143 Charlebourg, province de Québec, G1G-6P2. Chers amis, au revoir.
Et à demain. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.